Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Silence. Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Aujourd'hui au menu, on revient sur le rapport de la commission Laurent qui a été déposé. Est-ce qu'on va être efficace dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va régler les problèmes? On en parle avec Maître Jean-Paul Boily qui a déjà été en passant à la DPJ. Il va nous donner son opinion. La vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans, quel est l'âge légal pour se faire vacciner? Quel conflit pourra y avoir entre les parents pour la vaccination? On en parle avec Maître Sharon Otis. Le meurtre de George Floyd, Derek Chauvin là, veut annuler le verdict parce qu'il y aurait un juré qui aurait pas tout dit au tribunal au départ. On en parle avec Jean-Pierre Rancourt. Et pour terminer, Gilbert Rozon, une deuxième victime présumée, poursuit Rozon pour 1,7 million. Maître Nada Boumfta nous fait le point là-dessus. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Cette semaine, on a assisté au dépôt de la commission Laurent du rapport. Ça fait presque 2 ans, jour pour jour, suite à la tragédie, la fillette martyre de Granby qui est décédée. Ça a chamboulé le Québec au complet. On veut changer les choses avec ce rapport-là. Et évidemment, il y a beaucoup, on parle d'au-delà de 160 recommandations. Et qui de mieux pour en parler qu'un ancien vice-président de la DPJ et chroniqueur à l'émission? Bonjour, M. Boily.
Ouais, ben oui, ancien, c'est dans la fin des années 80, donc ça fait quand même longtemps. Mais il reste qu'à l'époque, on avait mis sur pied un comité qui avait pondu un rapport qui disait le Québec fout de ses enfants, souvenez-vous là. Puis il y a 2 ans, lorsque c'est arrivé là, qu'on a nommé la commission Laurent là, moi j'avais dit ben c'est rendu que le Québec se fout un peu de ses enfants. C'était malheureux là. Mais le rapport cette semaine. Moi, je l'ai épluché parce que vous savez que Cube a des budgets immenses. Là. Puis le rapport, il y a eu 300 témoins, 250 pages de rapport. Vous l'avez dit, au-dessus de 160 recommandations. Alors, ça m'a fait plaisir avec les budgets qu'on a ici à Québécois de pouvoir éplucher ce rapport-là. Ça m'intéressait beaucoup.
Et, à 500 de l'heure?
Oui, bien, c'est vous, ça. Le ouais. Nom, on fait des rabais. Vous savez, on a des bons amis, là, quand même. Jusqu'au deuxième, ils vont pas ça. Mais il reste que c'est un rapport important. C'est un rapport qui couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, qui lance des recommandations, mais l'important, c'est parce que on le dit tout le temps, hein, on est des avocats, puis là, quand même qu'on écrirait les meilleures lois du monde, les meilleurs règlements du monde, les meilleures directives qui peuvent exister pour nos enfants, puis ceux qui vont à venir, il va falloir changer quelque chose de fondamental dans la société ici, c'est les mentalités. Les mentalités parce que les gens ont comme l'impression que l'État-providence va tout régler, puis que des drames, il n'y en aura jamais. C'est pas vrai, là. Des drames, il va en avoir encore. Puis c'est malheureux ce qui est arrivé à Granby. Ils l'ont échappé, c'est clair. C'est arrivé aussi ailleurs, à Charlebourg. C'est arrivé les petits-enfants aussi sur la réserve autochtone ici à Wendake. Bon, il y a des cas comme ça malheureux qui arrivent tout le temps, puis on aura les meilleures lois, puis je peux pas faire de reproche à la commission Laurent, parce que ce qu'on a créé, on a créer, entre autres, un poste de commissaire aux droits des enfants, mais surtout, et d'abord et avant tout, au bien-être des enfants. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que des rapports, comme le rapport Laurent, comme les rapports qu'il y a eu à l'époque, comme bien d'autres rapports, souvent sont tablettés. Or, lorsqu'on crée un poste comme ça, et puis le ministre Carman a dit cette semaine qu'il allait suivre ça de façon attentive, puis qu'il y aurait un comité ministériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs ministres qui vont suivre ça, on va même nommer possiblement des jeunes, pas nécessairement des enfants de 10 ans, mais peut-être des enfants de 14, 15, 16 ans, pour qu'ils donnent des idées. Pourquoi? Parce que ça vient souvent de eux. Les dénonciations viennent des enfants, et c'est bon de savoir, des fois, l'idée, peut-être pas d'un enfant qui a pas encore la faculté de comprendre comment ça marche, etc., mais des fois, juste pour dire aux gens, aux plus vieux, ben écoutez, vous devriez peut-être regarder ceci ou cela. Parce que ce qu'on veut faire, puis ce que le rapport Laurent dit surtout, c'est d'être en amont de ce qui arrive. Donc, d'être proactif, puis d'essayer d'aider pas juste les enfants, les familles, les intervenants aussi autour. On est pris dans une paperasse, on le dit, Maître Bernier, depuis le début, que souvent les intervenants à DPJ, vous le savez, faut qu'ils remplissent des rapports, puis des rapports, puis des rapports, puis ça finit plus. Alors, une des recommandations de la commission, c'est justement de dire, laissez donc les intervenants intervenir, quand c'est le temps, faire des choses, nommer des gens peut-être pour faire de l'administration. Évidemment, ça prend des budgets, ça prend de l'argent. Ça sera toujours le nerf de la guerre. Mais encore là, je le répète, va falloir que les mentalités changent. Va falloir que les familles, là, et vous et moi, là, lorsqu'on voit quelqu'un qui arrive quelque chose dans la rue, faut pas dire, ah oh, ben c'est pas mon gars, c'est pas ma fille, je m'en occupe pas. Non, va falloir que les gens comprennent que c'est important. Il y a des signes. La petite fille de Granby, elle allait à l'école. Hein? Elle arrivait, pas de boîte à lunch. Tout croche. Bon, il semblerait qu'il y avait plusieurs signes.
C'est même une obligation légale.
En plus!
Selon la loi sur la protection de la jeunesse, de dénoncer.
Oui!
Si on assiste à de l'abus vis-à-vis les enfants. Mais Maître Boily.
Oui.
Est-ce qu'on est encore dans le pelletage de nuages? Pourquoi à chaque fois... Puis je veux pas être prophète de malheur, mais on veut des résultats sur le terrain.
Exact.
Une fois qu'un enfant est abusé, il est tard. Je veux dire, on peut pas réparer ça. Et on a assisté à tellement de mouvements, de mobilisation. Mais au final, est-ce qu'on voit des résultats?
Voilà.
OK, je comprends. Là, 2 ans plus tard, on arrive avec un rapport avec 160 recommandations.
Ouais, une charte de droits des enfants.
Épais comme le bras.
Ouais, exact.
On peut-tu en mettre 3 recommandations?
Ben, c'est là.
Puis sauver des vies? Parce que vous dites, ça va arriver encore. Mais si on regarde ce qui est arrivé, je comprends, on peut pas tout prévoir. Non. Mais il y avait, puis moi, je le répète, il y a un manque d'organisation, de priorisation des dossiers.
C'est ça.
Il y a de l'orgueil aussi. Des intervenants qui prennent des dossiers qui devraient lâcher prise pour aller en prendre des plus sérieux. Est-ce qu'on va régler ça?
Ben, c'est ça, là. Écoutez, les recommandations qui sont là, il y en a certaines, ça demeure de la paperasse, là, tant qu'à moi, mais comme vous dites, qu'on en prenne 3, 4 ou 5, ou moins de 10, mais qu'on les applique. Entre autres, on parle de garantir une place en CPE à tous les enfants en situation de vulnérabilité. Ben, c'est quoi ça? C'est de permettre de voir que des enfants, par exemple, qui sont dans des situations, par exemple, où il y a des parents problématiques, ben, si à tous les jours, on les voit dans un CPE ou 2 ou 3 fois par semaine, ben, ça allume des lumières, ça au moins. Première des choses. Deuxième chose, on parle.
Lumières à certains. OK, CPE, peut-être mieux organisé.
Mais au moins, les enfants, par exemple, dans le cas de la fille de Granby, on sait que, bon, elle allait à l'école, mais si elle avait été plus jeune, son jeune frère, semble-t-il, avait eu une problématique aussi, il allait pas à l'école, lui. Alors, au moins, s'il est en CPE, bien, il y a peut-être des intervenants qui vont peut-être voir il y a quelque chose qui marche pas.
Parce que la fille de Granby et les lumières n'ont pas allumé à l'école.
Non, ils n'ont pas allumé à l'école, puis ça, c'est un autre problème. Maintenant, là, il va falloir, puis comme je disais tantôt, que les gens arrêtent de dire, ben là, c'est pas mon enfant, fait que c'est pas grave, il y a un bleu ouais, mais là, les parents vont s'en occuper. Non, non. Il va falloir qu'il y ait un plus de dénonciation. Il va falloir qu'il y ait de l'intervention, mais que les gens, que les familles qui ont des problèmes, ben, qu'ils soient, qu'ils obtiennent des services encore plus. On en donne déjà. Mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils en veulent pas. Pourquoi ils disent non, on est capable de gérer nous-autres-mêmes? Puis c'est là que les enfants, ils mangent la claque. Parce que ces gens-là, manifestement, souvent, sont pas capables. Il y a un autre point qui est important dans le rapport, puis je veux le souligner, parce qu'on parle beaucoup des enfants. Mais vous savez, à la DPJ, on s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans et un jour, c'est bye-bye, boss. Hein. Là, tu t'arranges dans la vie, il y a certains services. Là, les recommandations du rapport, c'est de dire, écoutez, là, il y a des jeunes qui ont besoin d'encadrement. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils sont capables d'aller tout seuls dans la vie. Alors, vous devriez assurer un suivi. Pas pour tous, mais ceux qui en ont besoin jusqu'à l'âge de 25 ans. Pas les relâcher, un peu comme on a en matière carcérale. Vous savez, un détenu, si tu le mets dans la société, puis ça fait 10 ans qu'il est en dedans, il sort le lendemain matin, son petit sac brun dans la rue, puis il s'en va avec ses effets personnels, ils ont payé un billet d'autobus, puis bye-bye. Ça marche pas toujours nécessairement pour de la réinsertion. Les jeunes, c'est peut-être encore plus difficile pour eux, parce que ils ont même pas aucun bagage. Alors, une des recommandations qui est là, c'est de permettre à ces jeunes-là, qui sont plus vieux maintenant, d'être prêts à affronter la vie. Il y a une autre chose qui est importante dans le rapport, quand vous parlez de quelques points, c'est on dit maintenant, est-ce qu'on peut prendre en compte l'opinion de l'enfant, j'en ai parlé tout à l'heure, là, on va essayer de voir, même s'ils sont jeunes, qu'est-ce que l'enfant, même s'il a 6, 7, 8 ans...
On le faisait déjà.
On le faisait, mais est-ce qu'on le faisait assez?
C'est pour ça que... On le fait peut-être pas assez. Je suis étourdi comment il arrive un drame.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, ils veulent tout régler.
Non, mais on pourra pas.
En voulant tout régler, on règle rien.
Ben, c'est-à-dire que non.
Je comprends pas qu'on n'ait pas mieux focalisé sur la problématique.
Ouais. Ben, c'est l'enfant d'abord.
Décès d'enfant, de maltraitant. Je comprends qu'il y a de l'ouvrage, là. Mais c'est ce qui m'accroche
Il y a un autre point important aussi. Le lien biologique. Depuis le début, on parle du droit des parents, tout ça, puis il faut que... Là, aujourd'hui, on dit on va assurer une stabilité aux enfants. Il y a des enfants qui se font barouater de famille d'accueil en famille d'accueil. On dit dans le rapport, faut favoriser. Oui, c'était dit avant, mais on le favorisait peut-être pas.
Le lien biologique?
Non, c'est-à-dire que le lien biologique, c'est pas ça qu'on doit favoriser maintenant. On doit favoriser une stabilité de l'enfant. Tant mieux si c'est biologique, bien sûr.
Parce que
si ça reste dans la famille.
C'est vrai qu'on favorisait beaucoup le lien biologique. Ce qui faisait, on le disait, avant qu'un enfant soit retiré, il fallait que les parents soient maganés.
Exact, exact.
Et c'est ça le problème, parce que la maltraitance ou l'abus psychologique et ou le manque de ressources, c'est triste, un enfant qui n'a pas de lunch.
Exact.
Il n'est pas capable de s'habiller.
Il est complètement
démuni. C'est ça. Donc, Je comprends qu'on veut favoriser la stabilité et non le lien biologique.
On veut faire passer l'enfant d'abord, on le disait depuis longtemps, mais là, il faut arrêter de le dire, faut le faire. Donc, avec des ressources un peu plus grandes, on parle de budget, là, on ne sait pas comment ils vont donner, mais donnons les outils au moins aux travailleurs sociaux, puis arrêtons de chicaner pour une paire de culottes qui est peut-être déchirée.
Faisons
les vraies choses.
Prioriser. Puis moi, c'est là que je suis content quand on me dit qu'il y a un commissaire, quand on me dit qu'il y a une directrice qui va être là pour veiller au grain des troupes puis dire, hey, écoute, faut mettre de l'énergie, ici, il faut en mettre moins.
Ils vont faire des rapports à chaque année, au moins, ils vont avoir un suivi. Avant, il y en avait peu. C'est ça que j'ai commencé à dire.
Quand on s'éparpille trop. Est-ce que ça va donner une nouvelle loi, tout ça, ou pas?
Bien, écoutez, on va modifier. La loi comme telle, puis je l'ai dit en préambule, là, est pas si mauvaise que ça. C'est l'application le problème. Puis c'est la bureaucratie le problème. Okay. Alors, faut arrêter, puis faut surtout changer. Les mentalités, là, c'est pas les lois qui vont changer ça. C'est le peuple qui va changer mentalité. Et ça, bien, on le dira pas assez.
Mais on prévoit pas une réforme majeure de la loi.
Je ne penserais pas, non.
On verra, évidemment. C'est vrai que des fois, on le disait, la loi était là, mais elle n'était peut-être pas toujours appliquée de la bonne manière. Merci, Matt Boily.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier. Avec François-David
Bernier. Évidemment, on parle beaucoup de vaccination. Tout est en branle pour vacciner la population. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'on pourra vacciner. On a eu l'autorisation de Santé Canada pour le vaccin Pfizer, je crois. Et on pourra vacciner les jeunes, les 12-15 ans. Ce qu'on veut, c'est les vacciner avant le retour à l'école. Et tout ça, quand même, suscite un nombre de questions parce qu'on se dit, qu'est-ce qui arrive à un enfant qui veut se faire vacciner, son parent veut pas, vice-versa, qui décide, quand il y a une garde partagée, quel parent décide, est-ce qu'on peut forcer un enfant à être vacciné, est-ce que lui peut prendre la décision lui-même, puis c'est à quel âge? Ben, on en parle avec Maître Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour!
Oui, bonjour, Maître Berrier.
Donc, Maître Otis, c'est quoi l'âge légal pour qu'un enfant puisse prendre lui-même la décision de se faire vacciner, même si ses parents sont pas d'accord?
Bien, considérant que c'est des soins qui sont requis, parce que des soins qui sont non requis, c'est par exemple un tatouage, une chirurgie esthétique qui ne découle pas, par exemple, d'un accident ou quoi que ce soit. Donc, considérant que c'est des soins qui sont requis et que le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé que la vaccination est un soin requis, on n'a pas besoin du consentement si un enfant est âgé de plus de 14 ans et plus.
Okay.
Donc, il n'y a pas besoin du consentement. Et cependant, dans l'éventualité où le vaccinateur où arrive l'enfant et que lui prend le choix, si le vaccinateur est mis au fait, est mis au courant qu'il y a une divergence d'opinion par rapport aux deux parents sur le choix et que même si l'enfant a 14 ans, à ce moment-là, on demande là de faire en sorte que ce soit passé là, devant les tribunaux pour s'assurer là, que le consentement là, va de soi et ne va pas, par exemple, à l'encontre de l'intérêt de l'enfant parce que à 14 ans, oui, on peut donner, on peut le faire, un enfant peut se faire vacciner sans le consentement, c'est son tuteur ou ses tuteurs légaux et ceci dit, on n'a pas besoin de l'assentiment sur le coup là, des deux parents.
Mm-hmm.
C'est lors de la divergence que là, il y a une problématique. Et
même à 14 ans, si qu'il a, pourrait prendre la décision...
Ben, à 14 ans, il pourrait prendre la décision, cependant, si ça va à l'encontre de son intérêt et qu'un parent présente, par exemple, une ordonnance de sauvegarde, par exemple, s'il y a quelconque allergie ou une infection du système immunitaire, des problèmes anticoagulants, etc., hémorragiques, là, à ce moment-là, ça va être l'intérêt de l'enfant. Oui, l'enfant peut consentir, mais encore faut-il qu'il connaisse, selon l'article 11, il peut consentir, mais il faut qu'il connaisse les avantages et les risques et aussi les possibilités de réaction. Donc, pour qu'on puisse donner un consentement libre et éclairé, il faut qu'on soit en mesure d'établir et d'avoir tous les faits en main pour prendre une décision libre et éclairée. Parce que si on n'a pas tout ce qui peut arriver, comme par exemple, pour ne pas le nommer avec le vaccin AstraZeneca, il y a eu quand même des événements qui se sont arrivés, des mortalités qui en ont découlé.
Mm-hmm.
Donc, il faut quand même que l'enfant soit en mesure de se brosser un tableau qui est quand même objectif et qui prenne la bonne décision. Si l'enfant sait qu'il n'a pas de problématique, etc., je ne verrais pas pourquoi on ne respecterait pas son consentement.
OK, je comprends. Donc, si le vaccinateur est informé d'un litige entre les parents, s'il est prudent, il ne fera pas seulement dire ben, « t'as 14 ans, je te le donne selon ce que tu veux. » On va valider. Et ça m'amène à une question, Maître Otis. Est-ce que les écoles pourraient simplement, une journée quelconque, sans avertir les parents, disant que les enfants ont 14 ans et plus, vacciner, et l'enfant revient de l'école, « Maman, papa, ben, j'ai été vacciné aujourd'hui. » ou par prudence, on devrait aviser les parents, même si l'enfant a en haut de 14 ans?
C'est parce que, non seulement par prudence, c'est que, regardez, il y a plusieurs types d'enfants, vous comprenez? Mm-hmm. Il y a des enfants qui sont au courant de leur historique de santé. Il y en a d'autres qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui... Et donc, à ce moment-là, je pense que la transparence par rapport aux écoles, à tout le moins, c'est un minimum, je pense, que d'aviser les parents pour qu'ils puissent, oui ou non, consentir via un portail, via une lettre officielle ou quoi que ce soit pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique parce que par la suite, dans l'éventualité où il y arrivait quelque chose, OK, je comprends, 14 ans, plus, mais dans l'éventualité où un enfant n'a pas été mis au courant, qu'il a peut-être une problématique ou ça n'a pas été soulevé parce que l'enfant n'a pas eu d'autres symptômes ou d'autres maladies en cours de route, qu'est-ce que vous pensez que l'école serait ou la commission scolaire, parce que bien évidemment, hein, bon, c'est eux qu'on met de partie adverse, mais elle serait dans l'eau chaude, vous comprenez? Donc, je pense que il doit y avoir une transmission d'informations.
Au moins d'informer tel jour, telle date.
Mais non seulement ça, et de peut-être, moi, ce que je suggère, c'est de faire peut-être un lien avec un pamphlet de la santé, la sécurité, donc pour faire en sorte que les gens puissent prendre eux-mêmes et avoir les faits devant eux pour prendre une décision libre et éclairée à titre de tuteur légal, parce que lorsqu'on est parent, les deux sont titulaires de l'autorité parentale, à moins qu'il y ait, bien évidemment, un retrait d'un des attributs, mais somme toute, il ne faut pas oublier que toutes les décisions qu'on prend à titre de parent et dans le cadre de nos procédures devant la Cour, c'est toujours selon l'intérêt des enfants, selon l'article 33, okay. Et la santé prime et est au cœur de l'intérêt de l'enfant.
Il faut que ça soit bien fait. Parlons justement des parents. Là. Un parent est pro-vaccin, parce qu'on se rend compte dans la population, des fois, il y a une sorte de division qui se fait sur le vaccin. Parent, lui, bon, est pour la vaccination et l'autre est carrément anti-vaccin et ne veut pas, là. Donc, l'enfant, s'il a 12 ans, il est en bas de 14 ans, il ne peut pas donner de consentement. Qui a le dernier mot entre les deux parents?
Ben à ce moment-là, c'est pas compliqué. Là, on doit, là, les parents doivent passer et demander là à la cour, peut-être par ordonnance de sauvegarde. Ben, même pas une ordonnance de sauvegarde, c'est une mesure d'urgence rapide, mais il faut quand même statuer sur le fond du litige, à savoir est-ce que un des parents a des bons motifs. Parce que d'être pro-vaccin ou d'être pro-vaccin, vous pouvez, vous, à titre de parent, avoir les convictions que vous voulez. Cependant, lorsqu'on parle de l'intérêt des enfants, il faut faire peut-être abstraction de nos propres idéologies ou nos propres théories ou nos propres pensées. Il faut penser, est-ce que mon enfant, dans le cadre actuel, dans l'éventualité où, bon, il est en... Je comprends les bulles classe, tout ça, mais sauf que des enfants, d'avoir des enfants, c'est difficile, vous comprenez, les restreindre, etc. Donc, est-ce qu'il est dans l'intérêt de mon enfant? Est-ce qu'il a une maladie quelconque l'empêchant de ça? Non. Est-ce qu'il est allergique? Non. Est-ce que, bon, pour quel motif? Et il faut que ce soit un motif valable. Parce que non seulement il y a l'intérêt de l'enfant, mais la loi sur la santé publique, vous comprenez, est quand même d'une importance et elle est importante pour toutes. Pour tous. Donc, il y a l'intérêt de l'enfant, mais il y a l'intérêt aussi de protéger les autres enfants.
OK, je comprends. Et justement, une autre question, Maître Otis. Un enfant, bon, qui a 14 ans ou 15 ans, et là, qui se rend compte qu'il y a même deux parents qui ne veulent pas qu'il soit vacciné, puis il y a une sorte de litige familial. Est-ce que lui, il peut se représenter? Est-ce qu'il peut aller devant un juge disant « moi, je veux » ou même un enfant en bas de 14 ans qui dit « ben moi, je veux être vacciné, mes parents veulent pas », mais est-ce qu'il peut avoir, il appelle la DPJ, est-ce qu'il peut avoir accès à un avocat?
Ben, c'est certain là, qu'à partir de 14 ans, à tout le moins, là, ça c'est certain, il peut se présenter devant la cour pour demander d'obtenir soit les soins, etc., ou de demander, par exemple, une simple émancipation ou une émancipation pour consentir à ce soin-là particulier. Et à ce moment-là, le tribunal va regarder si il y a des raisons objectives, des raisons justifiant de passer, de demander l'autorisation des tribunaux. Mm-hmm. Somme toute, si ce n'est pas déraisonnable et si l'enfant n'a pas de conditions de santé particulières et qu'il n'est pas plus à risque ou son entourage qui a fait, par exemple, pas l'objet, là, mais qui ont reçu le vaccin, n'ont pas ressenti, par exemple, dans la famille de quelconque symptôme ou de problématique, à ce moment-là, vous comprenez que si c'est justifié, si c'est raisonnable, je pense que tout est une question de gros bon sens.
Ouais.
Et à l'heure actuelle, là, c'est pas compliqué. Laissez faire, à titre de parent, là, vos pensées, là, et demandez-vous s'il est dans l'intérêt, dans le cadre de la situation pandémique actuelle, s'il est dans l'intérêt de votre enfant de se faire vacciner.
Mm-hmm.
Et par la suite, si il y a une divergence, les tribunaux sont toujours là pour faire en sorte de prendre une décision qui va régler les différends
Et l'enfant a accès à l'aide juridique, ça veut dire qu'il pourrait faire ça indépendamment de ses parents, là. Il peut avoir un avocat, là.
Ben, je croirais que oui. Cependant, somme toute, j'ai déjà vu, par contre, des demandes qui sont faites par un mineur, mais pour lesquelles on retient les revenus respectifs des parties qui sont, par exemple, hors normes, et pour lesquelles le tribunal, par exemple, ordonne aux parties de diviser les frais d'avocat, là, par exemple, un prorata X ou à ce qu'on voit généralement à 50-50, là. Donc, tu sais, je peux pas me prononcer.
Les parents qui contestent pourraient avoir à payer l'avocat de leur enfant qui veut.
Non, c'est que l'enfant, oui, mais sauf que il y en a, vous comprenez, que malgré le revenu, considérant la situation financière actuelle au Québec, malgré les revenus de l'année dernière, est-ce que c'est toujours représentatif? Est-ce qu'ils ont des moyens? Parce que je comprends que c'est pour l'intérêt des enfants.
Ouais. On comprend que
des moyens financiers, là.
Quelqu'un qui a un problème a accès à ça. Maître Otis, en 30 secondes, est-ce qu'on va voir plus de demandes? Est-ce que vous pensez que ça va, dans certains ménages de garde partagée, là, il va y avoir des conflits liés à ça?
Je l'anticipe, parce que on voit de tout, là. Puis moi, tout ce que je vois, c'est des cas, vous comprenez, où est-ce que, tu sais, c'est conflictuel, là. Moi, les bons cas, les belles séparations, je les vois pas. Donc, j'anticipe qu'il y aura des demandes qui seront formulées, mais j'anticipe pas, par contre, des demandes de façon massive.
Okay.
Je pense que ce sera du cas par cas et je pense que c'est vraiment en cas de divergence complète qu'on doit se présenter devant les tribunaux et essayons de discuter, comme je le dis toujours, couple un jour, parent toujours.
Ah ben, très bonne phrase, puis le gros bon sens doit prédominer, puis évidemment, nous, on incite à la vaccination pour reprendre du mieux et se remettre à vie. Merci beaucoup, Maître Otis.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Le verdict de culpabilité contre Derek Chauvin, ce policier. Rappelez-vous l'affaire George Floyd, reconnu coupable de meurtre, d'avoir tué George Floyd. Un procès très médiatisé, on le sait, très suivi par le monde entier. Il y a des développements, par contre. Déjà, on savait qu'il y avait quelques failles. On avait tenu le procès dans le même état qui est arrivé l'incident. On savait qu'il y avait des politiciens, même une politicienne qui s'était prononcée sur l'issue du procès avant que les jurés soient séquestrés. Maintenant, c'est un des jurés qui serait en problème, qu'on aurait des photos de lui lorsqu'il participait à une manifestation antiraciste et il aurait menti lorsqu'il a été sélectionné. Il aurait menti au juge, en quelque sorte. Je voulais savoir, c'est quoi l'implication? Est-ce qu'on risque d'avoir un nouveau procès dans ce dossier-là? Et quel, je veux dire, c'est tellement médiatisé, c'est tellement important. Ce serait quoi les impacts d'un nouveau procès? On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Merci d'être là, parce que ça brasse, si on peut dire. Là, c'est Maître Rancourt, rappelez-nous un peu là, ce juré-là. Là, il aurait menti au juge quand il a été sélectionné.
Ben, c'est ça, parce qu'ils ont été chacun des candidats jurés avait été interrogé à savoir si ils pouvaient être impartiaux, dans le sens que tout ce qu'ils ont entendu ou vu avant, ils pouvaient mettre ça de côté, parce que c'est sûr qu'il n'y a personne aux États-Unis qui n'a pas entendu parler de l'affaire. Mm-hmm. Alors, un candidat juré, on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ça. Mais le juge doit s'assurer que la personne qui va jurer de rendre un verdict en fonction de la preuve uniquement et non pas de ce que les médias ont rapporté, ce que lui, est-ce qu'il s'est fait une opinion avant ou pas. Alors ça, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Alors là, on a découvert après le procès que ce juré-là avait participé à au moins une manifestation antiraciale et qu'il avait un chandail qui arborait le symbole de Black Lives Matter. Mm-hmm. Et bon, ça amenait à penser, évidemment, que cet individu-là est biaisé. Puis il a le droit de faire ce qu'il a fait, sauf qu'il aurait dû le déclarer aux juges et aux avocats pour faire en sorte que peut-être qu'il aurait été exclu. Parce que c'est difficile d'avoir un individu comme ça impartial. Mmh. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour que la cour d'appel leur donne un nouveau procès? Possible.
OK, parce que s'il l'avait déclaré, là, on aurait géré ça différemment. Et si on l'avait gardé comme juré, on pourrait pas revenir. Là. C'est d'être transparent, là.
Oui, absolument, mais s'il avait déclaré qu'il avait participé à ce genre de manifestation, c'est sûr que le juge l'aurait exclu. Les avocats auraient demandé, en tout cas l'avocat de la défense aurait sûrement demandé qu'il soit exclu. Mm-hmm. Et en toute prudence, le juge l'aurait exclu parce que si vous participez à des manifestations comme ça, c'est que vous avez des idées. Mmh. Et probablement des idées préconçues sur le fait que des policiers peuvent, par exemple, agir de façon brutale avec des Afro-Américains. Alors, à ce moment-là, il aurait été exclu. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ça en est 1/12. Est-ce qu'il va sortir autre chose maintenant? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les jurés sont pas... parlent plus que les jurés ici au Canada, parce qu'au Canada, les jurés n'ont pas le droit de parler de leur délibération. Mm-hmm. Maintenant qu'on sait ce qui est arrivé avec celui-là, est-ce qu'il y a d'autres jurés qui étaient sur le panel qui pourraient venir dire, ben écoute, il nous a influencés? C'est possible. On va voir la suite des choses, mais ça peut faire en sorte qu'on leur donne un nouveau procès.
Parce que c'est pas non plus automatique. Parce que si on essaie de comprendre la dynamique, parce que je pense que c'était 14 jurés là, il y en avait deux suppléants, ouais. En tout cas. Là, il y a un verdict qui est rendu. On se rend compte qu'il y en a un qui devait pas être là. Et c'est ça qu'on va vouloir rêver. Est-ce que c'est pas automatique parce qu'il devait pas être là, qu'il était là, que vraiment teinté le reste des jurés, ou?
Non, mais est-ce que à ce moment-là, le juge ou la cour d'appel, est-ce qu'on pourrait essayer de faire une investigation, une enquête avec les autres jurés pour savoir si cet individu-là a influencé d'une façon les autres candidats. À ce moment-là, peut-être que si on fait cette enquête-là, on pourrait... C'est pas juste un juré, mais ça a teinté le juré pour le reste. Moi, je vais vous donner un exemple d'un verdict que j'ai eu d'une affaire de meurtre où les 12 jurés sont revenus à 9h le soir en disant qu'ils étaient coupables, et j'avais demandé est-ce que chacun des jurés donne son verdict, et il y avait une des jurés qui avait dit ben d'une façon oui, d'une autre façon non, etc. Fait que le juge, ce qu'il a fait, c'est que il a renvoyé les jurés délibérés en disant écoutez, faut que ce soit unanime.
Ouais.
Vous avez le droit de garder votre verdict, et ils sont revenus le lendemain avec non coupable. Et là, on a su par une des jurés que ils avaient été influencés par le président du jury qui était vraiment fort et qui intimidait les autres jurés et les avait amenés à déclarer coupables. Mais lorsque le juge a dit « Vous avez le droit de garder votre idée », ben à ce moment-là, ces jurés-là ont dit « Ben écoute, c'est pas parce que le président nous force à dire... » Alors, vous savez, les délibérations, c'est secret. On ne sait pas ce qui se passe. Mais, dans le cas qui nous préoccupe, le fait que cet individu-là, par exemple, a caché ces manifestations qu'il faisait, est-ce qu'à ce moment-là, d'autres candidats jurés pourraient venir dire « C'est lui qui nous a influencés à tort parce qu'on voulait pas rendre ce genre de verdict-là? » On verra. Mais c'est quand même assez sérieux pour qu'on aille en appel.
Mm-hmm. Parce que, également, quelqu'un qui que ce soit ici aux États-Unis, qui est appelé comme juré et qui ment au tribunal parce que, bon, il s'est investi d'une cause et il voudrait faire condamner quelqu'un. Je veux dire, ça doit être un crime, ça. Je veux dire, ça doit être sanctionnable.
Ça pourrait aller jusque-là, sauf que il a omis de le dire. Il n'a pas nécessairement menti, parce que si on lui a posé la question, et je suis sûr qu'on lui a pas posé la question parce qu'on ne le savait pas, est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation anti-policier? Puis, mettons qu'il aurait dit non, puis on découvre après que c'est faux, mais là, oui, il pourrait être accusé de parjure. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas posé la question, donc il a omis de le dire. Le juge a demandé, est-ce que vous avez des idées préconçues? Est-ce que vous êtes capable de juger uniquement sur la preuve? Il a répondu oui. Mais là, avec ce qu'on apprend après, on peut douter de sa sincérité à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'accuser de parjure.
OK. Parce que ce soit ici ou là-bas, est-ce que les jurés sont... Ils sont comme assermentés, là. Ils doivent...
Oh oui, ils sont assermentés. Quand le juge va les assermenter, c'est parce qu'il va être convaincu que ces jurés-là sont prêts à juger en fonction de la preuve. Ils le disent. Nous allons juger en fonction de la preuve et on va mettre de côté tout ce qu'on a entendu. Vous jurez, et le candidat juré va jurer sur la Bible qu'il va juger uniquement sur la preuve. Mmh. Alors, si c'est pas le cas, ben ça teinte le verdict.
Parce que dans ce dossier-là, on sait, il y avait une vidéo, il y avait une preuve accablante, mais on sait que la politique s'est mélangée dans tout ça, que il y a ce nouvel événement-là, mais Maître Rancourt, avant même cet événement-là, il y avait déjà des choses qui clochaient. On savait que ça allait aller en appel parce que, bon, justement, on reproche là au juge de ne pas avoir changé de district, là, d'avoir gardé ça dans une zone où est-ce que, justement, ces gens-là, qu'il peut y avoir plus de gens teintés par la cause. Est-ce que le cumul de tout ça peut aider à avoir un nouveau procès ou on prend ça indépendamment?
Oui, OK. Parce que le reproche principal au début, c'était vous nous avez forcé à faire le procès ici dans le district où tous les gens sont directement concernés par l'événement, alors que si on avait envoyé ça dans un autre État, oui, tout le monde a entendu parler, mais ils sont moins concernés par ça. Mm-hmm. L'autre chose, c'est que vous aviez dû garder les jurés séquestrés.
Oui, c'est vrai.
Pendant tout le procès, parce qu'à ce moment-là, le soir, même si on lui dit de ne pas écouter les nouvelles, de ne pas discuter avec personne, ils le font. Alors, séquestrés. Il ne l'a pas fait. Alors, ces deux éléments-là sont importants. On ajoute l'histoire du juré et je pense qu'il va y avoir une possibilité d'un nouveau procès.
Mm-hmm. Et là, ça va être une bombe, là. T'sais, si on annule ce procès-là aux États-Unis, on va assister à des émeutes, là.
Oui, et on recommence le procès, on ne recommencera pas à la même place. Ça va être envoyé dans un autre, probablement un autre État. Et à ce moment-là, c'est sûr que les gens de la ville où ça s'est produit vont être offusqués. La majorité sont des Noirs. Ils vont sûrement faire des émeutes et on va se révolter là-dessus.
Parce que c'est un procès qui, c'est rare, mais c'est quasiment impossible d'être impartial là-dedans. Là, c'est difficile vu la médiatisation, vu vraiment à suivre ce qui va se passer avec ça. Mais c'est sûr que là, on en ajoute au dossier. On va suivre ça ensemble. Merci, Maître Encourt. Toujours éclairant.
On suit ça ensemble.
Oui, on se reparle. Bye-bye.
C'est good. Merci, bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Une autre poursuite au civil contre Gilbert Rozon. Maintenant, après Patricia Tuzulane, c'est Lynn Charlebois, la réalisatrice, qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un viol allégué qui aurait été commis en 1982, qui aurait chamboulé sa vie. Elle dit que depuis presque 40 ans, elle subit des séquelles de cette agression qui a profondément altéré le cours de sa vie. On voit ça de plus en plus, les poursuites au civil. Je ne sais pas si elle avait fait une plainte au criminel, mais on en parle, on analyse tout ça avec Nada Boumefta, qui est avec nous, criminaliste. Bonjour.
Oui, bonjour, collègue. Ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Et c'est tout, on voit là, ce genre de poursuite-là au civil, mais explique-nous, là, c'est... on n'est pas un criminel, là. C'est vraiment une poursuite civile pour des montants d'argent.
Oui, exactement. Là, pour dédommagement, séquelles psychologiques, etc., j'y reviendrai. Pour revenir à ta question, si Mme Charlebois avait porté jadis des accusations, là, porté plainte contre lui au criminel, oui, ça avait été fait en 98. Okay. Malheureusement, à l'époque, les policiers lui avaient dit que son cas était trop vieux et qu'elle se ferait rouler dans la boue si elle persistait à vouloir dénoncer le défendeur. Évidemment, message clair là pour les victimes, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous sentez, ah oui, c'est quand même des paroles lourdes en 98, mais aujourd'hui, faut comprendre qu'elles ont accès à des services et que s'ils elles sentent le besoin d'avoir du soutien pour dénoncer, il existe des services et que la police est là pour vous écouter également. Donc, n'hésitez pas à aller dénoncer ou à demander de l'aide pour vous aider dans cet accompagnement-là. Maintenant, elle a reporté plainte aussi dans la dernière vague de plaintes contre Gilbert Rozon, dont elle a fait partie là, de la liste des présumées victimes.
Était-elle courageuse?
Oui, également aussi. Et ça, je reviendrai là, sur un recours civil, mais elle a fait partie là, des plaignantes dont le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, n'en ont finalement pas retenu de plainte considérant Mme Charlebois là, comme étant une présumée victime. Elle se tourne aujourd'hui vers les tribunaux civils. Il est à noter qu'elle faisait partie du collectif Les Courageuses qui a été déposé là, en novembre 2017, si je ne me trompe pas, et dont la Cour suprême, là, le 16 novembre 2020, a rejeté finalement la demande d'action collective visant à représenter les personnes qui avaient été présumées agressées par M. Rozon. Et ça revient un peu au sujet de la présomption d'innocence et tout, là. Je ne sais pas si c'est une notion qui pourrait être intéressante pour le grand public, mais oui. Le fardeau de preuve est différent en civil et en criminel, et ça, c'est bien important de le noter.
Bien, il faut le noter. Explique-nous, là, au criminel, on l'entend souvent, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de bien le comprendre. Le fardeau de la preuve n'est pas pareil au criminel, là. Le procureur de la Couronne, lui, il ne regarde pas ça de la même manière s'il porte des accusations ou pas, là.
Exactement. Alors, il faut comprendre que le DPCP ont des directives à suivre et des directives, évidemment, qui vont dans le sens du code criminel et du fardeau qu'ils doivent rencontrer devant la Cour lorsqu'ils décident de porter des accusations contre un individu et de quelque nature que ce soit. C'est important que le grand public comprenne que c'est la même démarche qu'ont le DPCP d'une accusation à l'autre, mais évidemment, et avec leurs équipes spécialisées que je salue d'ailleurs, au DPCP, ils ont su s'accommoder aussi et permettre d'avoir une meilleure ouverture et contact avec la victime tout en offrant des services à celle-ci, même si la plainte n'est pas retenue au bout du compte. Donc, il y a les services du CAVAC qui existent. Il y a plusieurs autres finalités. Mais, comme analyse, le DPCP doit se demander est-ce que ils ont suffisamment de preuves là pour porter des accusations. Et parfois, ben il y a des contradictions. Parfois, ils ont de la preuve supplémentaire. Parfois, ils ont des informations ou des admissions faites de part et d'autre ou de l'information de l'extérieur qui peut, elle, être corroborée, qui fait en sorte qu'à la fin, le DPCP décide de ne pas accuser l'individu sur ces éléments-là et surtout sachant qu'il existe la présomption d'innocence. Mais je ne veux pas traîner les victimes dont les événements datent. De un, ça, c'est fini, là, il n'y a pas de prescription. Et il faut se sentir écouté aussi, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas accusation criminelle qu'elle n'aurait pas, par exemple, droit à ouverture à une plainte au civil.
Aujourd'hui. Mais c'est ça, on va en parler un peu plus tard, mais l'élément, quand même, quand ça fait 40 ans au criminel, ça doit rendre le dossier beaucoup plus difficile, là.
C'est très intéressant comme élément, c'est sûr et certain, comme criminel, lorsque j'ai à représenter des accusés, donc des gens qui sont accusés de tels gestes. Quand on parle de 40 ans plus tard, évidemment, les deux individus souvent ont grandi, chacun de leur côté. La mémoire est malheureusement une faculté qui oublie, mais il n'empêche pas moins qu'une victime peut quand même dénoncer, aller faire une déclaration à la police dans le meilleur de ses souvenirs. Et aussi, ça aussi, ça peut être une lacune là qui fait en sorte que le DPCP, finalement, ne porte pas de plainte. Donc, la mémoire peut jouer un rôle, mais il est certain que la police sont là pour vous écouter, prendre en note votre déclaration et la décision revient au DPCP de porter plainte ou non. Mais dans ces éléments-là, il s'agit souvent de versions contradictoires qui peuvent exister entre la plaignante et le présumé accusé, comme on l'a vu dans l'affaire Roson, d'ailleurs, de laquelle il a été acquitté.
Mais Nada, explique-nous, beaucoup de gens pensent qu'au criminel, c'est la parole d'un contre l'autre, mais c'est pas ça, là.
En fait, les critères vont beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas là, pour le juge de déterminer qui a raison ou qui a tort. Il s'agit vraiment d'une évaluation de la preuve dans son ensemble. Donc, si jamais il y a eu d'autres témoignages, par exemple, celui de l'accusé qui peut témoigner pour se défendre, ou par le témoignage d'autres individus qui auraient pu être des tierces personnes témoins ou des gens qui peuvent mettre en contexte certaines circonstances. Alors, le juge doit déterminer sur une base de RKWD, oui, qui est un jugement de la Cour suprême qu'on doit appliquer au niveau des critères. Donc, s'il croit à l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, mais il pense qu'il existe un doute raisonnable, il doit l'acquitter. Et s'il pense que le fardeau de la preuve de la couronne n'est pas rempli, soit hors de tout doute raisonnable, il peut également décider d'un acquittement de l'accusé. Mm-hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'on est acquitté que l'on n'a pas commis les 10 gestes, mais aux yeux de la Cour criminelle, ça n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable, par exemple, et ça mène à un acquittement.
Ouais. J'aimerais quand même t'entendre là-dessus, c'est intéressant. Parce que tu penses pas que c'est problématique aussi pour la présomption d'innocence de dire ça, que bon, il est acquitté, mais ça veut pas dire qu'il le fait? Comment tu vois ça?
Ben, en fait, c'est important de comprendre un jugement, là. Lorsque la Cour décide d'acquitter, par exemple, pour des raisons de manque de preuves hors de tout doute ou parce qu'il croit, et on l'a vu dans les cas de Roson, entre autres, là, le juge a cru la victime, mais à la fin a décidé d'acquitter M. Roson de ce dont on l'accusait, et ce, en raison du doute raisonnable avec l'histoire complète qui lui a été présentée. Donc, on applique là des critères criminels. Alors qu'au civil, là, c'est vraiment une preuve prépondérante. Donc, en fonction des témoignages des deux personnes qui vont venir devant la cour et le fardeau est moins élevé, le juge pourrait décider de trancher de l'autre côté. Mais j'invite les gens à évidemment aller voir ce qui s'est passé dans l'affaire des courageux qui, malheureusement, la demande a été rejetée de façon collective. Voyons maintenant si de façon individuelle, elles pourront avoir accès à une demande de dédommagement dont le fardeau n'est pas le même et la question devant le tribunal n'est pas non plus de décider s'il est coupable ou non, donc acquitté ou pas, criminellement responsable ou pas. Ce n'est pas la question qu'on se pose devant les tribunaux civils, c'est de savoir si effectivement il y a eu, selon la prépondérance de preuves, actions qui ont mené à des conséquences dans la vie de Mme Charlebois, par exemple. Et les critères en civil, ben là, de ton côté, c'est toi qui les connais mieux que moi pour savoir si ce sera retenu à la fin. Mais la demande et les questions en litige sont différentes d'une cour à l'autre. Ça, c'est bien important de le souligner.
Oui, mais c'est ça, parce qu'au civil, bon, tu le dis bien, la prépondérance des preuves. Mais dans le fond, au civil, l'agression autant au criminel qu'au civil, elle doit être prouvée. Il faut prouver qu'il y a eu agression, là.
C'est ça, c'est juste que le fardeau est différent. La couronne devant la chambre criminelle doit le démontrer, et ça c'est important, hors de tout doute raisonnable. Là, on passe à un autre concept au niveau juridique là, qui dépasse là, cette présomption d'innocence, qui est de démontrer vraiment avec la preuve que le juge n'a aucune autre conclusion possible. C'est vraiment la culpabilité de l'accusé. Alors qu'au civil, ben, par prépondérance de preuve, un peu le principe de la balance, si le juge tend à avoir suffisamment de preuves pour démontrer, ben, il pourrait en conclure qu'effectivement, les gestes ont été posés. Mais peut-être, et c'est ce qu'on a vu là, par le fait que les accusations n'ont pas été retenues, le fardeau n'était peut-être pas atteignable au niveau criminel.
Mm-hmm. Bien, à suivre au civil. Pour ce qui est des victimes, je suis présumé victime, est-ce que c'est fréquent qu'une accusation criminelle puis il y a une poursuite au civil par la suite?
On voit ça de plus en plus. Il faut noter quand même qu'au Québec, c'est différent de la situation des États-Unis où les poursuites civiles là, sont très, très fréquentes. Et permise aussi et facile à atteindre pour des dédommagements de montants qui peuvent atteindre des millions. Au Québec, c'est différent, évidemment, de la même façon qu'on peut voir aussi des poursuites actuellement qui ont lieu contre des policiers ou civils ou un regroupement de policiers pour du profilage racial. Ben, on le voit aussi de plus en plus chez les victimes, entre autres par le mouvement des courageuses. Mais voyons maintenant si ce sera de juridiction civile, effectivement, de déterminer ça. Si effectivement il y aura des dommages et donc conséquences et suite à ces demandes-là, c'est à suivre.
Mm-hmm. Non, c'est sûr que c'est pas nécessairement plus facile au civil, mais tu as raison. Je pense que de plus en plus les présumés victimes comprennent qu'ils ont un autre moyen d'obtenir justice, qui n'est pas la conséquence que le prévenu ou l'agresseur va en prison. Mais
exactement.
Mm-hmm. On va, vas-y, on y va avec la poche, on y va avec l'argent.
Ben exactement, exact, mais c'est très important comme point, je me permets de t'interrompre sur ce point-là, parce mm-hmm. que du point de vue des victimes, souvent quand on leur demande qu'elles recherchent, c'est pas nécessairement une sentence, une accusation criminelle. Parfois c'est du support, parfois c'est du dédommagement ouais. pour un emploi qui a été perdu, pour des biens qui ont été malheureusement brisés ou cassés lors d'événements de violence conjugale, pour etc., etc., des suivis psychologiques, donc parfois, elles peuvent effectivement se dire, et certaines peuvent reculer, je le vois, de vouloir dénoncer à la police. D'abord à cause des mythes qui existent encore dans la population, là, qu'on va pas te croire ou on va pas t'écouter. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, passer à travers tout le processus de système judiciaire criminel peut être difficile, donc peut-être aider à faciliter ça, mais également le voir avec la victime, qu'est-ce qu'on peut faire pour la supporter, l'aider, passer à travers tout ça, mais également qu'est-ce qu'elle recherche au niveau...
Elle recherche la justice, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y en a qui disent « Ah, oh, ils veulent rien que d'argent ». Non, si la personne va en prison, tu obtiens justice, puis dans certains cas au civil, si elle paye, c'est pas tant pour avoir de l'argent, c'est que justice a été faite. On met du baume sur la plaie, évidemment, avec ça. Merci beaucoup, Nada. Bonne journée.
Au plaisir. À la semaine prochaine.
Bye-bye. À la semaine prochaine.
Cube Radio.